Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point.
C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.
Quand on parle du loup.
Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de la série radiophonique « Quand on parle du loup ». Elle a été imaginée et conçue par notre classe de première STAV du lycée agricole Georges Pompidou. Dans cet épisode, nous nous intéressons au phénomène des fake news autour du loup, aux fausses histoires qui peuvent circuler sur cet animal, sur Internet, mais aussi sur les médias plus traditionnels.
Quand on parle du loup.
En premier lieu, voici l'histoire de Benjamin, 20 ans, et Romain, 16 ans, tels qu'ils l'ont raconté, interviewé sur BFM TV le 8 juin 2015. Ces deux jeunes hommes, alertés vers minuit par des beuglements et aboiements inhabituels, se rendent sur le champ en question situé à Seignes-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. En arrivant à 80 mètres de distance, leurs lampes reflètent les yeux qui brillent. Aucun doute pour les deux jeunes hommes, les loups sont revenus. Romain se fait encercler par la meute de loups. Il ne semblait nullement effrayé, se rapprochant petit à petit du jeune homme, apeuré. Il sort alors son fusil et tire en l'air faisant fuir les loups. Et si en réalité, je vous disais que la première histoire est non prouvée, car elle n'a pas été vérifiée. Ainsi, l'éthologue suisse Jean-Marc Sandry, biologiste diplômé de l'université de Neuchâtel, spécialiste des canidés et de la protection des troupeaux, affirme pour le site France TV Info, en date du 8 juin 2015, à propos de la déclaration d'attaque de loups par les deux jeunes dans les Alpes de Haute-Provence. Je cite, « À cette époque de l'année, en France, une meute n'est composée que de 6 loups, comme cela peut être le cas en automne ou en hiver. Par ailleurs, il dit que les animaux se sont approchés de lui. En règle générale, il fuit. L'histoire de ces adolescents est à prendre au sérieux. Mais parler de louveteaux à cette époque de l'année, c'est surprenant. Les loups se reproduisent en mars, par conséquent, les louveteaux sont actuellement âgés de 2 semaines, 1 mois maximum. Donc, ils ne pouvaient pas être présents vendredi soir, ils sont trop jeunes pour se déplacer avec la meute. Nous avons également retenu le récit d'un couple de promeneurs qui ont affirmé avoir été attaqués par un loup en pleine nuit, alors qu'ils campaient près du lac de Faravel. Comme nous avons pu le lire dans un article du Dauphiné libéré du 25 septembre 2019, mais qui met en garde contre la réalité des faits exacts. Le Dauphiné libéré relaie la déclaration du Parc national des Écrins qui dit, je cite, « S'entretenir avec les randonneurs en question, avec un expert de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour recueillir un maximum de détails sur les faits vécus. À ce stade, nous recommandons la plus grande prudence dans le traitement de cette information. Dans l'attente de résultats de l'expertise qui devrait intervenir d'ici la fin de semaine, sur ce site, nous avons déjà eu un signalement quelques jours plus tôt d'un renard avec un comportement agressif envers des randonneurs en bivouac, tentes déchirées, effets et notamment nourriture subtilisée. Selon ce même article du Dauphiné libéré, avait émis un ordre de tir pour abattre Filou, un renard jugé agressif et potentiellement dangereux qui avait l'habitude de commettre ses délits dans le col du Lautaret. Dernier exemple, avec une image de meute parue sur Facebook qui explique aussi selon le texte « Les 3 loups à l'avant sont vieux et malades et marchent en avant pour régler le rythme du groupe. Les 5 suivants sont chargés de protéger les devants en cas d'attaque. » Les animaux du milieu sont toujours protégés. Les 5 derrière sont là pour protéger l'arrière en cas d'attaque. Enfin, le dernier animal qui paraît distant de quelques mètres des autres bêtes sur la photo est présenté comme le leader, qui s'assure que personne n'est laissé derrière. Le texte conclut sur cette réflexion. Voilà ce qu'est un leader chez les loups. Il ne s'agit pas d'être devin, mais de prendre soin de son équipe. Tiré de tout ça à partir d'une seule photo, c'est beaucoup extrapolé, estime Farid Benhamou. Le géographe spécialiste des grands carnivores explique à 20 minutes qu'il est incorrect d'évoquer un animal dominant dans une meute. Ces animaux sont plutôt des parents par rapport aux plus jeunes, même s'il arrive que des femelles mènent une meute, souligne le chercheur. Évoquer une protection en cas d'attaque est tout aussi irréaliste. Cette meute, elle ne craint rien. Par qui va-t-elle être attaquée ? Ajoute Farid Benhamou, qui souligne qu'il est assez rare de voir des meutes de 25 loups. Une meute, c'est plutôt une dizaine de loups. Si les loups marchent ici à la queue leu-leu, c'est pour économiser leur énergie. Source 20 minutes. Conseil pour les auditeurs. Comme l'explique l'éthologue Jean-Marc Sandry, il n'y a pas forcément de secret pour lutter contre les fake news, juste des armes de scientifiques. Je cite « J'apporte des preuves concrètes, notamment grâce à des vidéos, et quand je ne sais pas, je le dis, ça rassure les gens. »
Quand on parle du loup.
Retrouvons maintenant, pour compléter ces informations sur le loup, M. Antoine Brimboeuf, champion de France de conduite de chiens de troupeau, ovins et bovins, responsable de troupeaux à la bergerie de Rambouillet, et lui-même éleveur avec sa compagne dans l'Indre, interrogé par des élèves de notre classe.
Le loup, c'est un animal très intelligent, qui est assez, malgré tout, intelligent, assez peureux, donc il ne se montre pas. Hein. Donc, voilà, même il y a des endroits, quand c'est vraiment compliqué, où on autorise des tirs, mais c'est une efficacité souvent relative, parce que tout le monde n'est pas tireur d'élite, hein. En général, on est éleveur, on n'est même pas forcément chasseur. Donc, s'il y avait des moyens efficaces pour écarter le loup dans des endroits où il y a des meutes implantées, hein, on est bien d'accord, je crois qu'on les aurait déjà utilisées, on ne parlerait plus de la problématique du loup. Nous, sur notre exploitation, on est situé juste aux confins de Poitou-Charentes, Centre et Limousin. Donc, sur les anciennes régions administratives. Donc, on est dans le triangle Poitiers, Châteauroux, Limoges, pour vous situer. Donc, c'est pas les Hauts-de-Seine, les Alpes, les Pyrénées ou du Massif central. Bon, on a été attaqué deux fois. Deux fois, on a retrouvé un animal, et notamment, la première fois, on a fait intervenir les gens de l'ONCSF. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ça a changé de nom, hein, si ça m'échappe, peu importe, de la biodiversité. Et donc, ils ont. C'est pas des spécialistes chez nous, mais ils ont envoyé leur rapport à des collègues à eux des Alpes et ils ont dit oui, c'est un grand canidé. Mais voilà, il y a eu des prélèvements ADN, ils n'ont jamais eu les résultats. On connaît un petit peu parce que ma compagne, elle a travaillé, elle a été directrice de la pastorale pyrénéenne. Donc, elle a été, au moment de sa carrière, assez proche de cette problématique. Et donc, c'est ce que c'est qu'une attaque de loup. Et pour nous, ça faisait pas trop d'interrogation, hein, parce que quand on est arrivé, c'était le matin, la bête était encore, était pas froide. Le troupeau, celui-là n'était pas du tout stressé, il n'y avait pas une mèche de laine dans le champ. Donc ça a été vraiment, si vous voulez, une frappe chirurgicale. La bête, elle avait la gorge tranchée, les côtes étaient coupées au carré, la panse était sortie, il n'y avait pas un brin. La bête a été, par les gens de l'ONCSF, elle a été dépouillée, il n'y avait pas un hématome. Et il n'y avait pas une mèche de laine dans le champ. Si ça avait été des chiens, ça aurait couru, ça aurait tiraillé de la laine, les animaux auraient été essoufflés, il y aurait eu des hématomes sur le cadavre. Là, c'est vraiment un animal qui est arrivé, qui vit de sa chasse, et donc qui est expérimenté. Hein, quand il y a des problèmes de chiens errants, ça fout la panique, tous les chiens, ils jouent autant qu'ils prédatent. Et là, c'était vraiment net, quoi. Donc, ça, c'est... Nous, on en a conclu au passage d'un individu solitaire qui a fait un prélèvement pour se nourrir. Et ça correspond ça correspond à une théorie de, liée à une théorie de colonisation. C'est-à-dire que nous, on se trouverait sur un couloir de colonisation qui partirait du Massif central, qui partirait de chez vous, et qui monterait jusqu'en Vendée, qui ferait 30, 40 km de large. Et donc, dans ce couloir, il y a des mâles qui se promènent, des mâles solitaires, qui ont certainement été écartés d'une meute constituée, et qui cherchent des territoires. Et on peut imaginer ou craindre que si le biotope leur plaît, ils reviennent un jour avec une femelle et ils s'installent. Donc nous on a eu deux attaques. Je veux dire, c'est beaucoup, en termes d'impact économique, c'est beaucoup, beaucoup moins que le renard hein, qui nous mange des agneaux, parce qu'on a beaucoup de brebis qui est née dehors, malgré le patou, parce qu'il ne peut pas être partout. Donc c'est de fait moins de dégâts que les renards, par exemple. Mais voilà, tant que c'est une brebis tous les 2-3 ans, ma foi, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est que quand on a une fois, on redoute toujours qu'il y ait un animal ou une meute qui s'installe.
Texte d'introduction lu par Félix, extrait du loup et l'agneau des fables de La Fontaine.
Car on parle du loup.